Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
Plusieurs ministres ont pris le bâton de commandement hier à Kinshasa. D'entrée de jeu, le nouveau vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité promet la restauration de l'autorité de l'État dans tout le pays, avec notamment un accent sur la lutte contre le banditisme urbain. Deuxième et dernier jour ce vendredi du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP en RDC. Au Congo central, tout se déroule dans un climat apaisé. Cependant, plusieurs parents n'ont pas payé les frais de participation pour leurs enfants, déplore l'inspecteur principal provincial du Congo central 3. Et puis, clôture mercredi à Bounia d'une série de formations sur la désinformation et les discours de haine en Ituri. Formation en faveur des journalistes et radios communautaires de l'Ituri, financée par l'ambassade de France en RDC. Pour en parler, nous recevons Thérèse Kankou, la responsable de ce projet. Mais avant de déballer ces titres, sachez que le recteur de l'université de Kinshasa suspend 6 professeurs de la faculté de l'économie. Il s'agit de ceux qui ont remis le vendredi 7 juin dernier les insignes de l'université au professeur Vital Kamere. D'après le communiqué signé par Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Unikin, les professeurs Batamba, Sindidi, Ali, Mbachi, Nemoyato et Bofoya ne sont pas revêtus de pouvoir de remettre les insignes et symboles aux récipiendaires, docteurs en thèse, et en remplit les conditions y afférant. Seul le recteur, conformément à la loi de l'enseignement supérieur et universitaire et ses différentes mesures d'application, en a ce pouvoir. Les incriminés ayant remis ces insignes au président de l'Assemblée nationale, à son cabinet de travail et non pas sur le site de l'université, sont reprochés d'empiéter les fonctions du recteur, ce qui constitue une faute professionnelle lourde, nécessitant l'ouverture d'une action disciplinaire à leur encontre, ajoute la décision du recteur. Madame, Messieurs, bonjour. Plusieurs ministres sont entrés officiellement en fonction hier après l'investiture du gouvernement souminois par l'Assemblée nationale, mais aussi après la remise et reprise entre le chef du gouvernement sortant, Samalou Kondé, et l'actuelle première ministre, Judith Souminois. Cérémonie intervenue mercredi, le condensé de la journée de jeudi avec Grace Hamzati.
C'est depuis le matin que les rendez-vous étaient pris dans plusieurs ministères pour la prise des fonctions des nouveaux membres du gouvernement, notamment au ministère du Plan où le vice-premier ministre Guilain Nyembo, ancien directeur du cabinet du chef de l'État, a pris ses fonctions. Julien Paloukou prend le bâton de commandement du commerce extérieur après la remise et reprise avec Jean-Lucien Boussa, nouveau ministre du portefeuille. Les deux ont fait le même exercice, l'un avec son successeur à l'industrie Louis Kabamba Watum et l'autre avec sa prédécesseur au portefeuille Adel Kaïnda. Le nouveau ministre du Développement Rural Mouindo Nzangi passe les bâtons de commandement de l'enseignement supérieur à Safi Songo Ayan. Remise et reprise également dans la journée au ministère de la Justice, des Sports, de l'Éducation nationale, des Finances, de l'Intérieur et Sécurité et à tant d'autres ministères.
Par ailleurs, la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, avec notamment un accent sur la lutte contre le banditisme urbain, c'est l'engagement pris par le nouveau vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Jacquemain Chabani, l'a dit hier à Kinshasa lors de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Peter Kazadi. On écoute Jacquemain Chabani dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
Je prends mes fonctions de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières dans un contexte sécuritaire assez critique avec l'agression de notre pays par le Rwanda causant des morts et des multitudes de déplacés internes. Je tiens à rassurer chacun de vous de ma ferme détermination à œuvrer dans la matérialisation de la vision politique du chef de l'État dans ce secteur, traduit clairement dans le programme d'action du gouvernement adopté à l'Assemblée nationale. Pour ce faire, il sera donc question d'insister sur la restauration de l'autorité de l'État par le renforcement de la sécurisation des personnes et de leurs biens, avec un accent sur la lutte contre le banditisme urbain et le terrorisme, l'identification nationale de la population, la stabilité et le fonctionnement harmonieux des provinces, et en faisant de l'autorité coutumière un acteur du développement, l'assainissement et la redynamisation de notre administration, ainsi que des différents services de sécurité, notamment la police nationale congolaise.
Entre-temps, sachez que l'ordonnance présidentielle du 28 mai dernier portant nomination des membres du gouvernement souminois transfère la prévoyance sociale au ministère de la Santé. Désormais, on ne parlera que du ministère du Travail et Emploi. Ce transfert n'a pas laissé indifférents les inspecteurs et contrôleurs du travail. Ils émettent un avis technique à ce sujet et attirent l'attention de la chef du gouvernement sur cette problématique. Selon ces inspecteurs, en attendant d'être fixés sur les attributions exactes de chaque ministère, il faut éviter ce qu'ils qualifie de chevauchement d'attribution qui serait une source de conflit de compétences au sein du gouvernement. Jeff Ngoy.
D'après les inspecteurs du travail, conformément à la concertation mondiale OIF, OIT, OMS et le groupe des ambassadeurs de Genève en décembre 2022, il a été convenu d'adopter des mesures innovantes pour favoriser l'accès équitable à la couverture santé universelle et la protection sociale adéquate dans les pays francophones à faible revenu du SMIG. Mais le changement départemental, ministériel, ne doit pas se faire sans adaptation des textes juridiques et réformes nécessaires dans le secteur du travail. Selon l'inspecteur Gloire Ouachipa,
qu'il y aura des conséquences. Parce qu'il faudra noter que le Code du travail congolais prévoit la santé et la sécurité du travailleur. C'est ça la prévoyance sociale. Et donc, si jamais le ministère de la Santé devenait compétent pour la gestion de ce qui est la prévoyance sociale, la première chose que nous allons remarquer, ça sera une adaptation juridique et le chevauchement de compétences sectorielles. Et le premier aspect, c'est le secrétariat général de la prévoyance sociale devra être attaché au ministère de la Santé. Et il y aura un dualisme dans les décisions entre les deux ministres.
Par ailleurs, les inspecteurs du travail rappellent leurs revendications salariales d'octobre 2023 et disent qu'ils ont été oubliés dans le programme du gouvernement. Ils plaident ainsi pour l'intégration de leur situation dans le budget rectificatif.
Je vous le disais en titre, deuxième et dernier jour ce vendredi 14 juin du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP en sigle. Au Congo central, 104 250 filles de l'éducation de base, dont plus de 41 300 filles participent à ces épreuves. 281 centres de passation sont organisés à travers la province du Congo central. Willy Koy Lusang, inspecteur principal provincial du Congo central 3, affirme que tout se déroule dans un climat apaisé, en dépit du fait que plusieurs parents n'ont pas payé les frais de participation pour leurs enfants. Nana Plurish Mambo.
Dans toutes les trois provinces éducationnelles du Congo central, les TENASOSP auxquels participent les finalistes de l'éducation des bases a été lancé par les autorités locales en présence des superviseurs nationaux et des responsables provinciaux du secteur de l'éducation. À Matadi, l'inspecteur principal provincial appelle les participants à éviter la tricherie afin de faciliter l'évaluation de leur potentialité. Claude Kankoukande.
Chers élèves, je vous invite à un travail individuel, éviter la fraude, la tricherie, car cela pourrait biaiser vos résultats par une orientation non objective.
Au Congo central 3, l'inspecteur principal provincial fustige les non-paiements des frais de participation au TENASOSP par les parents. Willy Koilusang les invite à les payer au deuxième jour de ces tests.
Les frais qui n'est pas payé, ça nous handicape parce que nous devons payer les intervenants avec ces frais-là. C'est 30 000 francs congolais.
Rappelons que selon les autorités scolaires, les tests de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP en sigle permet d'orienter l'élève selon ses aptitudes, ses talents et ses intérêts vers les filières d'études qui correspondent à ses potentialités. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Autre nouvelle, réception dans la nuit de jeudi d'un lot de 693 500 doses de vaccins antipaludiques appelés R21 Matrix M par les autorités sanitaires de la RDC, l'OMS, l'UNICEF, Gavi, PAT, Chai et d'autres partenaires du gouvernement congolais. Les vaccins sont arrivés par un cargo d'Éthiopiane à l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Ces doses sont destinées à vacciner les enfants de 6 à 23 mois contre le paludisme, une maladie qui affecte des millions de personnes en RDC. ici à travers le continent africain. Notez que les enfants de moins de 5 ans représentent pratiquement 50% des cas de paludisme et près de 70% des décès dus à cette endémie en RDC, selon les données les plus récentes issues du système de surveillance épidémiologique du ministère de la Santé publique et du rapport annuel du Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP. Notez que le vaccin antipaludique R21 Matrix M a déjà été introduit dans plusieurs pays du continent africain tels que le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Cameroun, le Bénin et le Burkina Faso. Dans l'actualité aussi, deuxième jour jeudi de la 19e édition de la DRC Mining Week qui se tient à Lubumbashi en marge de ce forum économique. Dans une conférence de presse, l'UNICEF, par le truchement de son représentant en RDC, est revenu sur la problématique de la présence des enfants dans les sites miniers artisanaux dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Pour le chef de l'UNICEF, 300 000 enfants sont dans les sites miniers artisanaux de ces deux entités. Ils contribuent ainsi à la chaîne d'approvisionnement des mines, notamment le cobalt, ce qui n'est pas une bonne chose, affirme Grant Letty. Le chef de l'UNICEF est au micro de Jean Gandou.
Notre estimation en ce moment est à peu près 361 000 enfants qui font le travail de forme dangereuse pour ces deux provinces. Ça voudrait bien dire qu'il y a une contribution très importante aux chaînes d'approvisionnement de cobalt de ces mines. Donc, ce marché, ça vaut des milliards. Nous proposons, ce sera d'amener tous ces efforts ensemble. La Banque mondiale, le BAT, eux, ils ont un programme pour faire sortir des enfants des mines artisanaux. Nous avons besoin de travailler ensemble avec le secteur minière. On fait partie d'un groupe de partenaires techniques et financiers avec le ministère de Mines. Nous travaillons sur le ODD avec le OIT, avec le ministère du Travail. Il y a aussi beaucoup de ventes de cobalt entre la partie informelle et formelle. Donc c'est très important pour nous aussi de travailler avec le secteur privé sur comment assurer que les chaînes de provisionnement sont libres de travail infantile. On veut tous accroître la richesse, mais on veut pas qu'il y a des enfants qui sont en train de mourir dans la mine.
Notons qu'à cette occasion, l'UNICEF a indiqué qu'en 2 ans, il a sorti 70 000 enfants des sites miniers et des situations de vulnérabilité dans ces deux provinces. Et puis, Radio Capi débute une série de reportages sur la situation des enfants à l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin en Ituri. Environ 3000 enfants victimes des atrocités des groupes armés vivent dans des conditions difficiles dans les rues de Bunia, chef-lieu de la province. La plupart de ces enfants qui sont orphelins ou séparés de leurs parents ou encore refoulés des familles d'accueil luttent chaque jour par tous les moyens pour la survie. Reportage signé Ezekiel Mousalia.
Si vous arrivez à Bounia par avion ou encore par route, la pitié et une forte émotion vous troublent en tant que parent. Du pied de l'avion ou de la gare en entrant en ville, des part et d'autre de la chaussée, sur les boulevards de la Libération, ils sont comptés par dizaines qui arpentent la rue. Nombreux ont l'âge compris entre 3 à 5 ans, voire au-delà, placés soit devant les boutiques la journée ou devant les restaurants de fortune où ils exercent différents métiers. Nettoyer la cour, puiser de l'eau, évacuer les poubelles et autres fait partie de leur l'eau quotidien pour la survie. Les plus âgés, eux, considérés comme les chefs des files, sont munis des bouteilles en plastique contenant des stupéfiants, des produits dont les colpatox, du carburant qu'ils reniflent à longueur des journées pour se détraumatiser. La nuit, le décor n'est pas beau à voir. Ces enfants dorment sur les devantures des boutiques et maisons de commerce. D'autres, faute d'endroits, dorment dans des caniveaux ou restent debout toute la nuit. Des organisations de défense des droits d'enfants estiment à plus de 3000 le nombre d'enfants qui arborent les différentes rues en raison de l'insécurité causée par l'activisme des groupes armés. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Justice, province de la Tchopo. Au moins 7 membres des gangs opérant pour la plupart dans la commune Mangobo comparaissent depuis hier devant le tribunal militaire de garnison de Kisangani Tchopo. D'autres présumés criminels sont en cavale. Tous sont poursuivis par l'organe de la loi pour divers faits infractionnels mettant en mal la quiétude de la paisible population de la Tchopo. La première audience en chambre foraine a débuté hier à la place des martyrs de Kisangani. Retour sur les faits reprochés à cette bande des présumés criminels avec Jacques Moukonko.
Parmi les 7 présumés criminels présentés ces jours devant la barre figure un couple de jeunes gens. Si la plupart d'entre eux sont peu connus, 2 sont considérés comme intrépides et chefs de bande par la population de Mangobo, notamment celle du quartier Matete. Il s'agit du sieur Lufafu Mondenge, alias général Mosekwe, et Blaise Manganga, dit serpent Nyoka Nyoka. L'auditeur militaire de garnison, le major magistrat Bertrand Badumbu, les poursuit tous pour divers chefs d'accusation, notamment association de malfaiteurs, vol à main armée et viol d'une fille en chaîne au moins par 10 personnes. Les faits se seraient produits entre mars et avril 2024. Ils devront répondre de leurs actes, a souligné l'organe de la loi. Pour sa part, le président du tribunal militaire de garnison de Kisangani Tchopo précise que cette première audience a consisté en la vérification de la régularité de la saisine et de la plénitude des compétences pour juger. Après ces étapes, les audiences peuvent se poursuivre normalement jusqu'au verdict dans quelques jours, a déclaré le colonel magistrat Destin Mungomba. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Direction la province du Nord Ubangi, nous apprenons que la ville de Gbadolite demeure dans le noir depuis samedi dernier. Cela fait suite à une panne de transformateur survenue au poste de distribution des bambous. Conséquence, les activités socio-économiques sont quasiment à l'arrêt, plongeant les habitants de la ville dans l'incertitude. Paul Richard Malengela, reportage.
La ville de Gbadolite est électrifiée par la centrale de Mobimbongo, mise en service en 1989. Mais depuis des années, les pannes se multiplient au niveau du barrage et sur le réseau de distribution. Samedi dernier, vers 7h locale, c'est une borne de transformateur haute tension qui a explosé au poste de bambou. La SNED Gbadolite explique la panne par la vétusté des équipements installés depuis 35 ans. Cependant, la direction générale s'active à acheminer et remettre dès samedi prochain une autre borne en bon état trouvée à Kinshasa. C'est qu'indique le directeur provincial de production et transport à la SNED Nord, Maurice Ewango. Pourtant, l'activité économique reste paralysée au chef-lieu du Nord Ubangi à cause de la présente panne, notamment au niveau des ateliers de soudure, des bureautiques, des moulins et autres. Taylor Taïma, le président du cadre de concertation provinciale de la société civile du Nord Ubangi, déplore divers désagréments que cela occasionne, entre autres la hausse du prix de farine de manioc et la charge de téléphone. Toutefois, en vue d'éviter l'obscurité totale à Gbadolite, la SNEL allume ses 2 groupes de secours. L'un alimente une partie de la ville et l'autre une partie de la cité de 18h à 22h. Mbondaka pour Chamalingue, la radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes en Afrique du Sud. Il s'ouvre ce vendredi 14 juin la première session du Parlement au Cap depuis les élections législatives du mois dernier qui ont vu l'ANC, le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, perdre sa majorité absolue. L'ANC va donc devoir nouer des alliances pour former un gouvernement de coalition. Plusieurs partis d'opposition ont déjà indiqué qu'ils rejoindraient ce gouvernement d'unité nationale, mais ce gouvernement n'est pas du goût de tout le monde.
L'invité.
Clôture cette semaine à Bunia d'une série de formations des journalistes des radios communautaires de l'Ituri. Cette formation sur la désinformation et les discours de haine s'est déroulée dans le contexte de conflits armés en Ituri. Une équipe de Radio Okapi partie de Kinshasa a conduit cette formation dans le cadre du projet d'appui aux radios communautaires financé par l'ambassade de France en RDC. Pour en parler, nous recevons Thérèse Kankou-Tamboué, la responsable de ce projet. Elle est avec Ezekiel Mouzalia.
Thérèse Kankou, bonjour.
Bonjour.
Que peut-on retenir justement sur ces projets que Radio Okapi pilote déjà depuis un bout de temps sur l'appui des radios communautaires?
Merci Ezekiel. Depuis le mois de février, Radio Okapi est en train de relancer progressivement son réseau des radios communautaires à travers le pays. Et pour l'instant, nous distribuons ou disponibilisons 2 contenus à ces radios-là. Il y a Ban en Capi, l'émission des jeunes qui passe de lundi à vendredi de 15h30 à 17h. Et également le programme Parlons français qui est une émission hebdomadaire où on apprend la langue française qui est financée par l'ambassade de France. Donc il faut noter que les radios avec lesquelles nous travaillons sont au départ des radios qui relaient déjà pas mal de programmes de Radio Capi, notamment les journaux, les dialogues entre Congolais, Parole aux auditeurs, Okapi Service. Et depuis le mois de mars, nous avons formé des journalistes au Sud Kivu, au Nord Kivu, et tout récemment, on était à Beni, donc au Nord Kivu, et maintenant, on est à Bunia. Donc le souhait que ces formations soient élargies dans tout le pays.
Qu'est-ce que vous attendez de ces radios, de tous ces journalistes que vous êtes en train de former?
Oui, déjà il faut dire que les formations que nous dispensons pour l'instant, ce sont des formations qui portent sur la désinformation, la mésinformation, la malinformation et la vérification des faits. Ça, c'est un module. Et il y a également une autre formation sur les discours des haines. Je l'ajoute aussi, ces formations sont appuyées par l'ambassade de France. On appuie avec aussi le bureau conjoint des Nations Unies, mais organisé par les bureaux de la division de l'information publique. Ce qu'on attend, c'est qu'on veut outiller les journalistes, les sensibiliser pour vraiment donner une information crédible aux auditeurs. Ils savent c'est quoi une désinformation, c'est quoi une mésinformation, ils pourront bien traiter l'information et donner une information crédible. Il y a aussi les discours de haine. Donc les journalistes doivent savoir distinguer c'est quoi un discours de haine, comment ils doivent traiter l'information justement en évitant les discours de haine et la désinformation.
Ces radios n'ont pas de moyens logistiques pour fonctionner, pour peut-être se déplacer et tout pour recueillir des informations. Est-ce que ce programme ou bien ce projet a des idées peut-être d'appuyer ces radios, qu'elles soient efficaces et qu'elles puissent répondre justement aux attentes de Radio Capi?
Oui, l'appui c'est déjà ça, hein. C'est déjà les formations qu'on a commencées. J'ai dit au début que c'est un programme qu'on relance progressivement et pendant qu'on échange avec pas mal de journalistes et radios communautaires, ils nous remontent ces besoins-là. Mais pour l'instant, on y va progressivement avec les partages des contenus et aussi les formations qu'on disponibilise. On espère élargir cela à travers tout notre réseau et déjà les besoins, beaucoup de journalistes ont exprimé ce besoin, pas seulement des formations sur la désinformation, les discours de haine, il y a beaucoup de formations. Donc sur ce point-là, on le fait déjà. Et pour d'autres besoins, on va les remonter. Et comme on est en train de faire ça progressivement, on ne manquera pas de communiquer les résultats ou bien les réponses que nous aurons obtenues auprès de la hiérarchie.
Nous sommes dans un contexte sécuritaire, surtout à l'Est. Hein, et la plupart de ces radios œuvrent justement dans des contextes sécuritaires vraiment difficiles, où les journalistes sont vraiment coincés pour avoir une bonne information. Vous pensez que cette formation va apporter sur eux, par exemple?
Oui, donc les journalistes, déjà, quand on forme, hein, ils ont déjà une bonne base. Dans le contexte qui est celui de l'Uterie, par exemple, les journalistes doivent plus veiller à leur sécurité. Mais comment les journalistes veillent sur leur sécurité? Justement en appliquant les règles journalistiques, de vérifier l'information, de la sourcer, et aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, la responsabilité des journalistes. Donc ils doivent vraiment faire montre de tout ce qu'ils savent en tant que journalistes pour se sécuriser. Nous sommes contents hein, du retour qu'on a. Ici à Bougne, on a fait 3 jours de formation. On a formé une 60aine de journalistes. On espère en former encore plusieurs. On a un bon ressenti. Les journalistes ont soif d'apprendre et ça nous encourage encore à faire des plaidoyers auprès de notre mission pour vraiment élargir ces formations dans plusieurs coins. Et on attend aussi les suggestions hein, parce qu'il y a des sondages qu'on fait aussi. On écoute. Ça nous aide aussi dans les cadres de notre travail pour voir comment améliorer, faire davantage, quoi.
Madame Thérèse, merci.
Merci Ézéchiel.
Thérèse Kankou Tamboué, chef du projet d'appui aux radios communautaires, elle répondait aux questions de Ézéchiel Mouzalia. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Roumouchinj, Pierre Diassino à la mise en onde. Merci de rester des nôtres.